Voilà quelques échos sonores des rues de Chatila, puisque on reçoit ce soir Ouria, Gaël et Nathalie, qui il y a quelques semaines encore étaient à Chatila. Alors peut-être on va expliquer le sens de votre venue ici. Vous n'êtes pas spécialiste de la question, mais vous êtes retrouvé dans le cadre d'un voyage militant à Chatila. Alors peut-être expliquer dans quel contexte vous retrouver là-bas, et puis après on dira deux mots sur ce qu'est aujourd'hui Chatila.
Alors c'est bien, Pierre, d'annoncer qu'on n'est absolument pas spécialiste, hein, ça c'est une vérité. On est des militants, des militants, enfin pour ma part, anticoloniaux, et notre engagement vis-à-vis de la Palestine se fait dans ce cadre-là, évidemment. Le séjour s'est déroulé du 26 novembre au 30 novembre, alors évidemment en 3-4 jours on ne devient pas spécialiste des camps de Chatila ou d'autres, d'autant plus que notre visite s'est cantonnée au camp de Chatila, sachant qu'il y a 12 camps au Liban. Ça s'est fait dans le cadre d'un jumelage avec la ville de Bagnolet. Nous étions donc 80 personnes. D'autres villes accompagnaient cette délégation. Nous n'étions pas seuls. Il y avait la ville de Douarnenez. Chacune des villes était jumelée avec les camps. Il y avait la ville de Méricourt, de Mitry-Mory, la Courneuve et d'autres encore. Donc c'était un voyage totalement officiel et lors de ce séjour, on a eu l'occasion de non seulement de discuter avec les gens qui vivent dans les camps, mais on nous a demandé depuis qu'on est rentré d'animer soit des émissions comme celle-ci ou des débats. Et on a pu, les uns et les autres, faire des recherches et on a lu, comme chacun d'entre vous, quand vous préparez vos sujets. Donc on n'est pas des spécialistes, mais on s'est attaché à faire quelque chose de sérieux, j'espère. Donc les camps de Chatila, parce que moi je parlerai de Chatila, peut-être Gaël plus de la prison Trième, cette prison secrète. Enfin, je pense que toi tu as plus travaillé la chose, moi j'ai plutôt travaillé les raisons de les conditions d'existence et le départ de ces réfugiés. Donc on le sait tous, le 29 novembre 47, la résolution 181 a reconnu, et donc l'ONU a décidé d'une partition de l'État entre l'État des Palestiniens et Israël. Donc ces deux États, arabes et israéliens, depuis 48 en tout cas, le sujet et le conflit s'est aggravé. Au lendemain de cette résolution, énormément de Palestiniens se sont retrouvés boutés hors de leur terre ou de leur maison. Les chiffres, ils oscillent entre 500 000 et 800 000. Moi, je me suis basée sur les travaux de Benny Morris. C'est les travaux les plus sérieux. Et il y en a eu d'autres depuis qui n'ont absolument pas contesté ce chiffre-là et qui auraient donc quitté 500 000 à 800 000. Aujourd'hui, il serait 58 ans plus tard, donc les réfugiés seraient aux environs de 3 900 000 au Liban, dont 370 144 dans les camps. Donc, je vais dire une grosse connerie, tu me laisses corriger. 3 900 000, dont 370 144 au Liban. 55% d'entre eux vivent dans les camps. Voilà, j'ai rétabli. Il existe donc officiellement 12 camps au Liban, mais ça c'est officiel. Et il y en a d'autres qui sont absolument pas reconnus par l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de la Palestine dans le Proche-Orient, qui a été mis en place en 1949 par l'ONU. Donc le camp de Chatila a été donc jumelé et jumelé avec la ville de Bagnolet. Et c'est pour ça qu'on s'est, c'est à cette occasion qu'on s'est rendu au Liban. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a absolument pas visité d'autres camps, on se cantonnera donc à Chatila.
Alors juste, on va revenir sur les événements qui font que des camps tels que Chatila existent et puis ce qui s'est passé en 82, mais à quoi ça ressemble quand on arrive à Chatila, ça ressemble à quoi aujourd'hui, quelle est la situation, dans quoi on se trouve.
Les deux autres me corrigeront, mais quand on arrive, c'est un énorme ghetto. Ça ressemble à n'importe quelle ville, je dirais, du sud ou des pays pauvres. C'est des, par exemple, aujourd'hui, on estime la population de Chatila entre 13 000 et 15 000. Et ils vivent sur 200 kilomètres sur 200.
200
c'est
mètres.
200 mètres, ouais, pas 200 mètres sur 200. Bon, les chiffres, c'est assez. Je sais pas si c'est parce que moi j'avais vu un mètre, enfin un kilomètre carré, enfin.
Non, c'est à peu près ça, c'est à peu près ouais. 200 mètres sur 200 mètres et presque maintenant plus de 17 000 habitants. Pas que des Palestiniens, non. Aussi des immigrés syriens qui sont venus bosser au Liban, des Kurdes. Donc voilà, c'est ça ressemble pas au camp de réfugiés de Palestine. C'est tout en hauteur, donc malgré leur interdiction de construire, d'être propriétaire, n'en parlant pas au Liban. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'étroitesse des ruelles, les jungles de fils, de câbles électriques et de conduits d'eau où tout s'entrecroise, une espèce de toile d'araignée quand on lève les yeux au ciel, quelquefois dans une salle de classe d'une école, on ouvre la fenêtre et on se trouve devant des parpaings, enfin devant le mur de la maison mitoyenne. Donc tout se construit comme ça, pas vraiment très droit et dans des conditions un peu de bricolage, quand ils sont passés des tentes à la construction dans les années 50. Donc c'est une impression vraiment, en regardant ce Chatila, en connaissant pas les autres camps, on peut imaginer, alors que Chatila est connu médiatiquement, mondialement, du fait du massacre, on imagine aussi la situation dans les autres camps dont parlait Auréa, dans une dizaine d'autres camps au Liban.
Pour préciser peut-être, enfin pour moi déjà, ils ont quelle stature au sein du Liban ces réfugiés ? Parce qu'en fait, ils vivent dans les camps, mais ils sont contraints de vivre dans ces camps ou ils ont la possibilité de pouvoir.
Non, ils sont contraints. Ils sont, quand je dis ghetto, c'est que vraiment ils sont assignés à résidence dans ces kilomètres, enfin dans ces mètres carrés qu'on vient d'énumérer. Gaël le dit à juste titre. Depuis les années 50, le métrage ou l'extension est impossible. Donc vous imaginez. 17 000, enfin bon, les chiffres là aussi ils sont assez éparses. L'UNRWA a du mal à avoir des chiffres officiels. Donc, ne pouvant pas s'étendre en largeur, ils s'étendent sur la
hauteur.
En hauteur. Et ça n'en finit plus et c'est totalement insalubre. Alors, il faut dire que l'État libanais interdit officiellement, hein, donc dans la Constitution, on dit 70 métiers, mais là, moi, en épluchant, il y a peut-être même une centaine de métiers qui leur sont interdits, même si depuis que les Syriens ont quitté le Liban, et donc il manque de main d'œuvre, donc on est en train d'assouplir la législation, mais pour l'instant, les gens des camps n'ont rien vu venir, mais que de toute façon, les métiers valorisés comme la médecine ou le droit, ce qui arrive, les Palestiniens, on le sait tous, étudient énormément, c'est des métiers qui ne peuvent pas exercer. Le droit, il l'a dit Gaël, le droit à la santé, le droit à la nationalité, le droit... à l'étude, tout ça c'est absolument limité et voire même interdit. Ils n'ont pas le droit à la nationalité, ils ont toujours un certificat de réfugiés qui leur est délibéré par l'UNRWA. Donc au-delà de ça, donc le droit de la propriété, droit de circulation, droit d'installation, un Palestinien ne peut pas sortir de comme ça. Par exemple, on a un cas à Bagnolet, un monsieur qui voudrait faire soigner son fils, il faut qu'il demande à une autorité étrangère qui envoie une demande en bonne et due forme. Sinon, tu ne peux pas sortir comme ça. Et c'est très court dans le temps. Et vous devez regagner aussitôt le Liban. Donc voilà, les réfugiés n'ont pas de nationalité.
Alors, il y a tout un tas de métiers qui leur sont interdits. Et concrètement, ces gens-là vivent de quoi, les gens que vous, alors, je ne demande pas les gens que vous avez pu rencontrer, de quoi vivent-ils ?
Ils vivent de subsides. L'UNRWA donne c'est à peu près entre 35 et 45 euros, ça dépend. Et vous aviez jusqu'en 91, avant la première guerre, la guerre du Golfe, c'était l'OLP qui donnait des petites retraites. Mais aujourd'hui, l'OLP n'aide plus que les familles martyres, c'est-à-dire les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Mais c'est infime, c'est tout petit. Donc on a un peuple entier dans les camps qui vivent de subsides, faut le savoir, entre l'ONU, l'UNRWA et les ONG. Il y a énormément d'ONG qui aident, notamment des gens du Nord, les Pays-Bas.
Ils vivent de petits boulots, et de petits boulots aussi. De choses comme ça. C'est vrai que l'UNRWA qui s'occupait donc des camps se retire aussi pas mal de fric. Donc il y a de moins en moins de moyens sur l'ensemble des camps de réfugiés. C'était l'organisme qui avait été créé au départ. Donc c'est un camp complètement à l'abandon au niveau aussi d'aide. L'OLP ou le Fatah, enfin l'argent ne tombe pas. Il n'y a pas de fric. Certains se posent des questions où va le fric et comment ça se fait qu'on les laisse. Enfin, c'est la dernière roue. Les réfugiés, ça reste toujours, même en Palestine, de toute façon, la dernière roue du carrosse palestinien, si tant est qu'il y a un carrosse. Et puis, donc, dans la brèche qui s'engouffre, le camp de Shatila dépend d'une commune qui est limitrophe à Beyrouth. La commune est gérée par le Hezbollah, qui s'engouffre par l'intermédiaire du Hezbollah, la coopération iranienne, où on voit quelques citernes d'eau avec le drapeau iranien à l'intérieur du camp. Donc l'histoire du jumelage avec Bagnolet, c'est quand même hallucinant que ce soit Bagnolet, après des années, que les Iraniens ont amené un immense moteur électrique, et Bagnolet amène le gros câble électrique pour électrifier le camp, quoi, pour assainir un peu l'électrification du camp. Il est prévu que Bagnolet va aussi avec la mairie l'assainissement des eaux, un certain nombre comme ça. Enfin, il y a tout à faire, et c'est de plus en plus à l'abandon.
Et c'est vrai qu'il y a un sentiment collectif d'abandon, à la fois l'autorité palestinienne, de l'Europe, mais le monde entier. Donc c'est vrai, comme le dit Gaël, le souci, et on a pu le constater sur les murs, c'est toutes les... je ne sais pas si c'est une montée, parce qu'on peut pas, on n'a pas vu le début de ce qu'on appelle l'intégrisme. Hein. Le Hezbollah, c'est une, la commune de Khoubeiri est une commune donc du Hezbollah, et c'est les seuls qui les aident. Ils n'aident pas marginalement. On ne sait pas les chiffres, mais on le sait tous que le Hamas finance, mais là le Hezbollah aussi. Donc cette histoire le sentiment d'être abandonné. Cette grande part aussi de ségrégation par le gouvernement libanais va à l'encontre du protocole de Casablanca, qui a été décrété par la Ligue arabe en 65, qui prévoyait normalement pour les réfugiés une équité des droits à l'exception de la nationalité. Donc normalement, les réfugiés qui se trouvent soit en Jordanie, en Syrie et notamment le Liban, ils devraient bénéficier du droit de la santé, du droit à l'étude, mais ce protocole donc est complètement pas appliqué.
مساك بالخير واحنا توينا جينا
مساك بالخير واحنا توينا جينا
تنجهز هالكالب ونروح لهالينا
تنجهز هالكالب ونروح لهالينا
ولولا المحبي على القدام ما جينا
لولا المحبي على القدام ما جينا
ولا دهسنا اراضيكم برجلينا
ولا دهسنا أراضيكم برجلينا
ويا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك
يا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك
يا مرحبا بالطريق لعرفات نابك
يا مرحبا بالطريق لعرفات نابك
ويا مرحبا بك على سحجي وجفي
يا مرحبا
مرحبا بك على جيزي المحلي
يا مرحبا بك على جيزي المحلي
والنجم غرب والزين ما جاء
والنجم غرب والزين ما جاء
جيز وجديد من عند الخواجة
جيز وجديد من عند الخواجة
بالهوى بالهوى وانا رماني الهوى
بالهوى بالهوى وانا رماني الهوى
بيصير يا ابن عمي نلتقينا سوا
شو بيصير يا ابن عمي نلتقينا سوا
وين الزينة تجيل وين الزينة تنام
وين الزينة تجيل وين الزينة تنام
احتفاي القاطي في فوق ريش النعام
احتفاي القاطي في فوق ريش النعام
احتفاي القاطي في فوق ريش النعام
رنت سويرا يا حلا هرني رنت سويرا يا حلا هرني نادوا على موتتي شوفت جني
Allez, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est avec toujours Ouria, Gaëlle et Nathalie qui reviennent d'une visite au camp de Chatila. Alors, vous vouliez dire deux mots sur comment s'organise politiquement le camp et que, alors, ils n'ont pas le droit, manifestement, les réfugiés qui vivent dans le camp de Chatila ne peuvent s'exprimer comme oui, électeurs à aucune occasion.
Pas dans le jeu, évidemment, libanais, pas dans le jeu palestinien national. Ce qui est intéressant sur le camp de Chatila, c'est que c'est la première fois au mois d'avril que des élections étaient organisées à l'intérieur. C'était plus simplement les représentants des instances classiques palestiniennes, les dirigeants des instances classiques palestiniennes. Donc des élections organisées donc pour élire, comme il y a dans tous les camps de réfugiés en Palestine, un comité populaire ou comité d'habitants avec des associations, avec un quota organisé pour les femmes. Il y avait 3 places pour les femmes, avec une possibilité de voter à 18 ans d'ailleurs, ou alors que la majorité est à 21 ans au Liban, un peu plus progressiste. Donc ces élections ont permis d'avoir des représentants et des interlocuteurs aussi pour la mairie de Bagnolet, parce qu'il y a un jumelage, c'est pas évident, ça va un peu dans tous les sens, y a pas mal d'incompréhensions quelquefois, et donc ça a été plutôt sain. Nous on était aussi un peu méfiants, enfin on n'avait pas une idée vraiment très très claire de ce qu'allait être ce jumelage. En même temps, c'est porté aussi politiquement, et ça c'est pas mal porté par la mairie, pas simplement comme une opération, des opérations humanitaires entre guillemets, mais de bien mettre en avant le droit au retour, la situation des réfugiés palestiniens d'une manière générale. Et puis pour revenir à... non, bah c'est bon. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose sur la nationalité?
Oui. Moi, je voulais juste dire par rapport à l'objectif politique, depuis qu'il y a eu ce jumelage, depuis qu'on est passé, ça fait 3 ans hein, que le jumelage est commencé. Nous, on a décidé d'y aller là pour la première fois. D'ailleurs, on peut peut-être revenir 2 secondes en arrière sur le fait que normalement, le massacre est commémoré au mois de septembre, puisque c'était donc le 16 septembre 82, et que tous les ans, le camp de Chatila organise une commémoration du massacre, et que la mairie de Bagnolet avait donc organisé cette délégation pour partir à la commémoration du massacre, et que malheureusement, on n'a pas pu partir. Donc c'est des jeux diplomatiques qu'on ne maîtrise pas très bien, dans lesquels la France est impliquée, puisque c'est le Quai d'Orsay qui nous a interdit de partir... au dernier moment, avec des choses un petit peu compliquées, puisque la déléguée générale de Palestine en France a soutenu l'État français dans le fait qu'on ne puisse pas y aller. Donc, du coup, on a repoussé de 2 mois ce voyage. Et c'est vrai que le fait qu'on amène des câbles, ça peut paraître humanitaire. On amène des câbles, on amène de l'argent, machin et tout. Mais d'un autre côté, quelques temps après, ça a débloqué. L'État libanais a décidé de débloquer du fric pour aider à installer ces câbles et racheter des câbles aussi pour le camp de Chatila. Voilà, donc...
Oui, je voulais juste dire que le jeu français politique au mois de septembre, donc on n'est pas parti pour raison d'État à la fin. C'était la raison invoquée. Au début, c'était pour des raisons de sécurité vague, c'était pas très clair. La France et d'autres pays occidentaux ont signé la résolution 1559 concernant le Liban et donc réclamant le départ des Israéliens. Donc ça a été effectué en 2000, le départ des troupes israéliennes du sud, le départ de l'armée syrienne, dont ça a été effectué d'une manière plus rapide que prévu, et puis le désarmement des factions ou milices, en considérant comme milices Hezbollah autant que les Palestiniens dans les camps, désarmement complet de tout le monde. Et la France est en train de jouer à cette époque-là et continue un jeu avec l'opposition libanaise, en soutenant l'opposition libanaise actuelle et l'opposition syrienne Donc il était malvenu que des Français soient là-bas, que les Italiens sont partis, les Américains sont partis dans le cadre de la commémoration pour le massacre de Shatila. Mais les Français se sont vus, voilà, interdits de séjour à ce moment-là, quoi.
Alors, vous avez évoqué l'État libanais. Qu'est-ce que, où ils en sont? Qu'est-ce que, comment c'est, quand, quel rapport ils ont avec l'État libanais? Et puis il y a eu des bousculements un petit peu récemment avec le départ de la Syrie. Est-ce que ça change des choses?
Oui, bah oui, parce que le fait que le départ des troupes syriennes conditionne aussi le désarmement des camps, des différents camps. Les Palestiniens ont malheureusement en tête le massacre justement de Sabra et Shatila. Sabra n'existe plus parce que ça a été absorbé par Shatila. Et en 82, donc, des milices chrétiennes de droite libanaises, les phalangistes, avec la complicité de l'armée israélienne, je rappelle que c'était la période où les Israéliens occupaient le Liban, paix en Galilée, un drôle de nom pour une guerre, et ce massacre donc a été perpétré peu de temps après l'assassinat de Bachir Gemayel. Et donc aujourd'hui, les Palestiniens sont encore sous le souvenir et le choc de ce qu'on a appelé les guerres des camps, puisque périodiquement de 82, 85 et 86, il y a eu des assassinats contre les Palestiniens dans les camps. Donc aujourd'hui, le départ des Syriens, normalement, doit engager les Palestiniens vers le désarmement. Simplement, ils ont peur de désarmer, puisqu'en face, il y a encore des fous furieux qui tentent... soit de les bouter hors du Liban, parce que voilà, le fait que l'UNRWA baisse ses crédits, le fait que l'Europe, on voit bien par rapport aux Palestiniens, il n'y a plus rien, ils ont peur que finalement ce qu'étaient des réfugiés aujourd'hui soit quelque chose de définitif et qu'il n'y ait plus de possibilité de retour. Voilà.
Pour ajouter quelque chose, c'est le souvenir, la mémoire palestinienne sur l'ensemble des massacres. Donc 82, donc massacre, on a décomptabilisé plus de quelque chose comme officiellement, on a du mal, les chiffres officiels qu'on peut trouver, ouais, c'est à peu près 1000 morts, 400 disparus ou 400, 500 disparus, etc. Donc ça, c'est complexe.
Ils disent entre 800 et 3000. Voilà.
Toujours est-il que voilà, donc c'est massacre impressionnant, des corps éventrés, des gamins déchiquetés, deux, trois ans après, donc toujours sur le même camp de Shatila, 600 morts sur ce que Auria disait, ce qu'on a appelé entre 85 et 87 la guerre des camps, c'est-à-dire le contrôle sur les camps. L'organisation palestinienne, l'OLP, donc évacue avec l'aide de la France en 82 et sous la pression israélienne, donc évacue le Liban. Il reste les Palestiniens dans les camps de réfugiés, donc ils se sont fait massacrer à Shatila. Et puis, la milice Amal chiite, avec les Syriens derrière, décide donc d'en finir une bonne fois pour toutes et de remettre une couche sur les camps palestiniens en disant, voilà, l'OLP est plus là, l'autorité est plus présente, on va éradiquer une bonne fois pour toutes et avoir la main mise sur ces histoires de camps palestiniens au Liban. Donc, remassacre, où il y a un petit mausolée de commémoration dans le camp de Shatila, remassacre trois ans après le massacre de 82. Et aujourd'hui, nouvelle crainte, les chrétiens, il y a une espèce de coalition chrétienne au Liban qui regroupe toutes les forces Aoun, les forces libanaises d'extrême droite, l'ensemble des camps chrétiens sont unis sous une même coalition, avec des propos menaçants à l'encontre des Palestiniens. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité particulière pour les Palestiniens, il n'y a aucune garantie particulière.
Alors vous avez quand même évoqué, on va essayer de revenir un petit peu sur les massacres de Sabra et Shatila qui ont lieu à la mi-septembre 1982. Peut-être revenir sur le rôle d'abord qui massacre et quel est le rôle de l'armée israélienne, quel est le rôle des puissances occidentales à ce moment-là. Il y a une espèce de tout le monde laisse faire dans quelle mesure les Israéliens participent, dans quelle mesure ils aident. Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu le point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on sait aujourd'hui?
En fait, en 82, il y a le contexte de la guerre civile au Liban. Là-dessus, vous avez plusieurs fractions libanaises, donc confessionnelles évidemment, hein, qui se combattent. Les Palestiniens sont sunnites, donc et une force assez importante mène eux aussi un combat, c'est un combat de libération, mais qui n'est pas sans toucher et heurter finalement l'équilibre même de l'état naissant libanais. Lorsque Bachir Gemayel, donc je disais tout à l'heure, se fait assassiner, les phalangistes accusent l'OLP de cet assassinat. Et donc, ils justifient ça par une vengeance en 82 en attaquant Chatila. Mais ils n'attaquent pas simplement Chatila, ils attaquent d'autres camps. Et Gaël a une meilleure mémoire que moi. Il y a deux camps qui ont été rasés à ce moment-là en 82. Donc, je suis incapable de vous donner les deux camps. Les noms des deux camps, donc deux camps sont rasés à ce moment-là. Ça se chiffre en milliers. Alors quelle est la part et la complicité des Européens ? J'en sais foutre rien, je vais pas inventer. Par contre, je peux parler de la complicité israélienne. En 82, je disais tout à l'heure, Israël occupe le Liban. Le Liban sud, mais jusqu'au, ils sont à Beyrouth, hein, en 82, avec la paix en Galilée. Lorsque je dis qu'ils sont complices, c'est-à-dire que l'armée est là, et laisse faire le massacre sur les Palestiniens. Il était question d'en finir avec la ténacité et le combat. Hein, il faut pas oublier que avant que le camp de Chatila ne se rende à Beyrouth, il s'est passé 3 à 4 mois avec ils n'avaient que leur détermination, avec peu d'armes, et ils tiennent tête à une armée extrêmement forte, qui est l'armée israélienne. Donc là, lorsque les Israéliens occupent le Liban, ils ont qu'une seule chose en tête, c'est d'en finir avec les Palestiniens. Et ils en finissent non seulement militairement, mais avec la complicité aussi, évidemment, de la fraction libanaise, les chrétiens. Voilà, donc... Quand Yasser Arafat, après négociation, quitte le Liban, c'est pas fini. On poursuit encore ce travail de façon à éradiquer toute volonté de combat. Et je dirais malheureusement, ils ont réussi. Depuis, il n'y a plus de mouvement de résistance dans les camps. En tout cas, au Jordanie, c'était 70, et je vous rappelle Septembre Noir. Ensuite, il y a eu 82, 85 et 86 au Liban. Et depuis, plus rien. Plus rien.
Alors dans un article du Monde diplomatique, il y a quelques descriptions. Le journaliste écrit par ses récits, Kishari enchevêtré, enfants égorgés ou empalés, ventre de femmes ouverts avec leur fœtus, tête et membres coupés à la hache, morceaux de cadavres jusqu'à la nausée. Il parle de ces récits jusqu'à la nausée. Ce qu'il faut, il y a non seulement l'intervention des milices dans ce camp, mais c'est extraordinairement violent ce qui s'y passe. Vous avez eu aussi ce type de récits, de mémoires de ce qui s'est passé?
Non, pas des choses aussi. Enfin, on a eu quelques bribes, mais pas à ce point-là. Mais
ce qui est sûr, c'est que la mémoire, elle est toujours très présente, et que chaque fois qu'il y a une fête ou un truc un peu officiel d'organiser, il y a tout de suite les photos des martyrs, y compris des martyrs du massacre de Chatila, qui apparaissent.
Qui? Nathalie,
je voulais juste aujourd'hui c'est assez nouveau, il y avait une espèce de terrain dépotoir dépôt d'ordures, etc. C'était la fosse commune, c'était là où on a enterré, où la Croix-Rouge a enterré tous les corps après le massacre de Chatila. C'était un terrain privé. C'est la mairie de Goubéry avec le Hezbollah derrière qui a décidé de nettoyer le terrain et d'en faire un lieu de commémoration. Donc il y a une espèce de pelouse où tous les corps sont sous terre, avec quelques pauvres panneaux, quelques vieilles photos, etc. Il n'y a strictement rien. Il est question de faire un mémorial, une sculpture, etc. Enfin, d'essayer, mais bon, sinon il n'y avait strictement rien.
Et il n'existe que depuis 98, c'est-à-dire entre 82 et 98, il n'y avait aucun endroit pour un massacre mondialement connu, aucun endroit de commémoration de ce massacre. Et bien sûr, c'est le Hezbollah qui l'a mis en place. L'endroit est gardé par un membre du parti.
Payé par lui, d'ailleurs.
Les responsables du massacre de Chatila, donc il y a Sharon, où il y a eu énormément de manifestations à l'époque pour appeler... qualité de personnel. J'étais ministre de la Défense à l'époque. Il a été destitué, écarté. Il y a eu des commissions d'enquête en Israël. La presse a repris
où il
a
été. Où il était accusé de sa responsabilité. Bon,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste, l'OLP est quitte le Liban avec un accord avec les Américains et la France. Donc, dans l'accord, normalement, il y a aussi le fait que les Américains et la France doivent sécuriser les camps, ce qu'ils vont jamais faire. Donc, il y a une part de responsabilité là-dessus, elle est indéniable. Et donc, quand Gemayel est assassiné fin août, début septembre, Israël s'est arrêté à 40, enfin l'armée s'est arrêtée à 40 kilomètres de Beyrouth. Et à l'assassinat de Gemayel, il monte sur Beyrouth et il monte jusqu'au camp de Shatila. Et les milices chrétiennes vont attendre l'arrivée de l'armée israélienne qui va effectivement occuper. Donc il n'y a plus personne pour voir ce qui va se passer à part l'armée israélienne. C'est pour ça que l'armée israélienne est complètement responsable, parce qu'elle a permis aux milices chrétiennes d'entrer dans les camps et de faire ce massacre.
Les responsabilités dans le rapport rendu par la Cour suprême israélienne sur Sharon, le rapport évoque donc une grave le fait que Sharon n'ait pris aucune mesure pour surveiller et empêcher les massacres. Il se dit perplexe sur l'attitude de Sharon, qui n'a pas prévenu Begin à l'époque de sa décision de faire entrer les phalangistes dans les camps. Pour finir, il lui reconnaît là, je cite, « responsabilité de n'avoir pas ordonné que les mesures adéquates soient prises pour empêcher d'éventuels massacres. Sharon porte une, je cite, responsabilité personnelle et doit en tirer les conclusions personnelles. » Il y a eu une espèce d'accord, après il y a eu des documents officiels qui sont sortis en 94, assez récemment, il y a 10 ans, qui parlent de plans décidés entre Sharon et Gemayel. Il ne faut pas oublier que Gemayel a appelé les Israéliens aussi à son secours. Gemayel, avant de se faire tuer, et il s'est fait tuer d'ailleurs aussi sur ces bases-là, avant d'accéder à la présidence. Mais c'est aussi une alliance entre chrétiens et israéliens, l'histoire du Liban. La responsabilité, pareil, des Palestiniens ou les Libanais, on entend souvent dire 75, etc. Donc il y a eu un État dans l'État palestinien, ça a énervé les Libanais, et c'est le déclenchement de la guerre civile en 75. C'était pas vraiment le cas, c'était les alliances de toutes les forces progressistes, Walid Jumblat et compagnie, avec les Palestiniens, contre la bourgeoisie conservatrice, chrétienne, libanaise, avec des révoltes, avec des manifestations sociales. Ça a commencé par des manifestations de rue, avec des problèmes sociaux, avec des grèves.
Parce que c'était un État très libéral à l'époque, le Liban, par rapport au reste de la région et des États arabes. Et donc il y avait une misère assez impressionnante, et y compris dans ces quartiers-là. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve encore aujourd'hui autour de Shatila tous les pauvres du coin étaient déjà dans cette région, dans le sud de Beyrouth, dans ces années-là.
Et donc pour la responsabilité internationale aussi, c'est le fait que les troupes, Arafat a essayé de demander les garanties avant d'accepter de partir. Est-ce qu'il avait vraiment le choix de partir du Liban? Il a fait plusieurs démarches auprès de Gemayel, même à l'époque, en 82, avant le massacre, pour que les promesses soient tenues sur le rôle de la force multinationale qui devait rester, 800 Français, 500 Italiens, 800 Américains. Cette force devait rester une trentaine de jours, empêcher tout dérapage, protéger les familles palestiniennes. Arafat accepte de quitter Beyrouth, et personne n'a respecté sa parole dans ce domaine. Tout le monde a laissé faire. Il y avait encore, même s'il y avait des troupes israéliennes, je ne sais plus s'il y avait des Italiens à l'époque qui n'étaient pas très loin. Enfin, personne n'est intervenu au moment de ce massacre. Les témoignages après, donc dont tu parlais des Palestiniens, les visites internationales, enfin l'Ela Shaïd, l'ancienne déléguée à la Palestine, Jean Genet, etc., sont venus juste après le massacre, donc témoigner de voir. Voilà.
صبرا وشادينا مش صارالك بيها صبرا وشادينا مش صارالك بيها أطفال الدمحان شيوخ وعيالات أطفال الدمحان شيوخ وعيالات دن 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 دن
Voilà, c'était Nassel Riwen, une chanson sur Sabra et Shatila, le massacre.
Donc on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et puis on continue avec Ouria, Gaël et Nathalie qui reviennent de Shatila. Autre agrément touristique de votre voyage, autre élément des que vous avez pu voir là-bas, c'était la prison de Riyam, qui nous ramène un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les liens entre Israël et les forces libanaises chrétiennes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est cette prison et quelle est son histoire?
Alors oui, avant de parler de Riyam, sur les collusions, donc on a parlé de Sharon, des responsabilités. Il y a deux responsables aussi du massacre de Shatila, c'est Chrétien, Samir Jaïja, qui est amnistié, qui aujourd'hui revient sur la scène politique comme si de rien n'était.
Qui était en France
qui était à la tête des forces libanaises.
Ouais. Sharon est venu rencontrer en France.
Et Eli Obeka, qui était aussi, qui a failli témoigner à Bruxelles à un moment sur Sharon à propos de Shatila, et qui a été assassiné juste avant, en 2003, dans des conditions mystérieuses. Donc cette alliance, on la retrouve dans le sud Liban, donc occupation du sud Liban en 78, avant qu'il monte jusqu'à Beyrouth en 82. Ouverture de deux prisons, une c'est Ransar, je crois, je suis plus très très précis sur les chiffres, et de Riyam pendant 22 ans, donc jusqu'en 2000, jusqu'au retrait des forces israéliennes. Il y a eu 9000 prisonniers palestiniens, arabes confondus, libanais, etc. Le sud Liban, donc géré conjointement par l'armée israélienne et par leur supplétif, l'ALS, l'armée du Liban Sud, donc des supplétifs, des généraux, là, chrétiens libanais, Haddad, Lahad, à la fois chrétiens, et puis on retrouve aujourd'hui, je crois, il y a 30-20% quand même de chiites, etc. Parce que c'est une armée de mercenaires, donc si tu veux, t'as pas de fric, voilà, tu rentres dans l'ALS et tu collabores avec le régime israélien. Et quand ça devient chaud, et quand en 2000 les troupes israéliennes sont repliées sur Israël, tu retrouves les mecs de l'ALS réfugiés en Israël ou un peu partout, voilà. Donc effectivement, alliance et deux prisons sur cette zone, deux prisons secrètes. En ce moment, c'est un peu le sujet, c'est un peu d'actualité. Exactement le même type de prison que les prisons dont on parle de la CIA en Europe. Donc prison en dehors de tout droit, en dehors de tout contrôle, de tout examen d'organisme international, sans jugement, sans procès, sans rien. On détient, on torture. Donc là, voilà, c'est Riyam, c'est un exemple. Donc on est allé là-bas, oui, dans le cadre de cette visite, on est descendu dans le sud. Donc la prison de Riyam a été donc 22 ans après, donc libérée en 2000 par la population autour, par les militants solidaires, par les amis, par la famille, etc., par les habitants autour. L'ALS s'est cassé en courant. Tous les collaborateurs libanais sont cassés en courant. On laissait les détenus dans les tôles. Donc il y a plusieurs films avec des images assez spectaculaires où on voit la population en train d'essayer de défoncer les portes pour libérer les prisonniers. Il y a un film sur une des prisonnières qui s'appelle Soha Béchara, qui elle est libanaise communiste. Il y a quand même pas mal de Libanais solidaires des Palestiniens aussi. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier quand on parle des Palestiniens au Liban. Et puis un autre film qui s'appelle Terre de femmes, avec là une prisonnière qui s'appelle Kifa Afifi, qui est du camp de Shatila, qui est palestinienne. Ce qu'on n'a pas dit aussi, qu'ils viennent tous au Shatila de la région du nord d'Israël, de la plupart de 48, la région d'Haïfa, et de tous les villages autour.
Juste pour revenir sur la collaboration, l'étroite collaboration entre les l'ALS plutôt chrétienne et l'armée israélienne, c'est que en fait, Ariam, visiblement dans les récits des ex-prisonniers, les interrogatoires étaient menés par des militaires israéliens et pour le quotidien, les matons, tout ça, c'était l'ALS, quoi.
Oui, tous les supérieurs hiérarchiques militaires israéliens et puis les Libanais. Kifa Afifi, cette Palestinienne qui a été enfermée là pendant 6 ans, c'est un parcours. Donc elle a été. Donc je vous passe les détails de ces tortures, pas de nourriture, pas de vêtements, pas de visite, les murs qui suintent, de l'eau, des matelas entièrement mouillés, torturée, oui, à la cigarette ou à autre chose.
À l'électricité.
Soa Béchara, je crois que dans le film aussi, décrit aussi son cachot, 1m80 sur 80 cm. Elle s'est forcée de marcher dans sa cellule, de faire 4,5 km par jour en marchant. Donc c'est une manière de résister moralement et physiquement à la détention. Et puis l'arbitraire total, voilà, je te mets dans une cour, je te joue au foot avec toi, je te pisse dessus, etc. Enfin bon, je te passe tous les détails de ce genre de tôle.
En fait, ce qui a un peu annoncé, c'est effectivement cette prison a été libérée parce qu'Israël se tire de ce territoire, donc c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que les conditions, les prisonnières, notamment parce que effectivement, on a plutôt rencontré des prisonnières. Enfin, quoi qu'on a rencontré aussi le mari, c'est le mari de Kifa Afifi qui nous a fait la rencontre, la visite de la prison. Il raconte qu'effectivement, à partir du moment où elle a été moins secrète, où la Croix-Rouge est arrivée, voilà, parce que elle a fini par se savoir.
En 95, la Croix-Rouge intervient, ils regardent un peu. Donc ils mettent des robinets, ils changent les matelas, ils changent un certain nombre de choses.
Ils ont mis des matelas.
Oui, ils avaient des paillasses, c'était sur les planchers. Des toilettes dans les cellules, voilà. Ça pose la question aussi. La Croix-Rouge vient en 95, voit un truc pareil, et puis voilà, tu vois, ça continue encore 5 ans après.
5 ans
encore après. Quoi. Donc tu as déjà de 78 à 95 sans rien, sans que personne puisse voir quoi que ce soit.
Enfin, ceci dit, les Palestiniens sont habitués à ça, je pense, encore aujourd'hui en Palestine, des conditions de détention extrêmes et surtout pas de jugement pendant des mois ou même 3 ans. On connaît des gens, c'est 3 ans dans les geôles israéliennes sans aucun jugement et on ressort sans aucun jugement.
Et sans visite.
Guillaume.
Ouais, ben non, pour avancer aussi, parce que quand on arrive à bientôt à la fin de l'émission, c'est quoi aujourd'hui les perspectives par rapport à la situation de ces réfugiés de manière générale? Est-ce qu'il y a des dans les discussions d'accords et tout ça, où est-ce qu'on en est avec les pourparlers, quoi?
Les accords sur les réfugiés, sur le droit au retour.
Oui, voilà, c'est ça. Il continue à y avoir des négociations entre représentants palestiniens et gouvernement israélien. Et quelle est la place? Qu'est-ce qui est fait?
Gaël l'a dit au départ. Il dit aujourd'hui, les réfugiés, ce sont des personnes qui sont un peu oubliées dans ce conflit israélo-palestinien. Et ils ne sont que, ils ne sont plus qu'un... qu'un espèce de chantage que peut faire de temps en temps l'autorité palestinienne. Malheureusement, c'est non seulement le monde entier les a oubliés, mais aussi leur propre autorité. L'espoir aujourd'hui, c'est les élections. C'est les élections à la fois au mois de mars pour les Israéliens et en ce moment pour les Palestiniens.
Justement, dans les programmes, les différentes organisations qui se présentent.
Et donc ça c'est bien le problème, parce qu'il y a eu notamment un camp de réfugiés qui s'est révolté avec un incendie, bloquer les rues, faire des barricades, etc. Le camp de Deiché, qui est dans la banlieue de Bethléem. Parce que le représentant, celui qui était issu des camps de réfugiés, on l'a mis en dernier de la liste pour les élections. C'est assez représentatif de l'attitude vis-à-vis des réfugiés. La plupart des réfugiés dans les camps sont ultra remontés contre l'autorité palestinienne, contre l'ALP d'une manière générale, sur ce qui a pu être négocié en écartant complètement le droit au retour des réfugiés. La résolution 194, une des premières résolutions qui demande le droit au retour. Le simple fait, alors, d'évoquer le droit à retour, ça fait toujours peur quand on parle de ça, mais le simple fait qu'Israël reconnaisse déjà le droit au retour. Je parle pas de l'application. Il y a d'abord la reconnaissance, et puis après, on peut parler de l'application ou pas, des déménagements. Tout le monde ne va pas rentrer en Palestine du jour au lendemain. C'est pas le simple fait de reconnaître simplement qu'en 48, ils ont été chassés. Ce simple fait-là, on en est loin.
Parce que reconnaître le droit au retour, ça veut dire effectivement reconnaître qu'on les a chassés, ça veut dire reconnaître que la construction d'Israël est peut-être illégitime à cette époque-là.
Enfin, illégitime, illégal plutôt. Hein. Même s'il y a une épuration ethnique des territoires, c'est vrai qu'il y a les nouveaux historiens, il faut dire qu'en Israël, les nouveaux historiens travaillent sur cette réalité historique, mais on est loin de la reconnaissance politique, en tout cas, l'État israélien. Mais le problème aussi aujourd'hui, c'est que l'autorité palestinienne ne veut pas, enfin on l'a vu hein, par l'échec des accords d'Oslo, une des choses qui a à la fois discrédité totalement l'OLP, c'est ça, il n'y avait aucune place, rien pour les réfugiés. Le droit au retour est non seulement nié par tout le monde, mais y compris par l'autorité. Il le justifie par une réalité rationnelle. Il n'y a pas de place. Voilà. C'est tellement petit qu'est-ce qu'on va faire des 4 millions ou des 6 millions qui vivent ailleurs?
Alors, on avance dans cette émission. Peut-être revenir à aujourd'hui, ce qui se passe autour de ces camps. Alors vous avez expérimenté. Je vois bien que c'est difficile. Quelle forme de solidarité on peut apporter à ces gens-là, à ces situations relativement complexes. Moi, je vois bien que vous n'avez pas pu partir en septembre parce que c'est des questions tellement sensibles que dès qu'on met le petit doigt là-dedans, on se retrouve pris dans des enjeux, dans des contradictions, dans de la... Vous ne saviez même pas que les Ila Shahid, vous l'avez empêché de dormir.
Ça s'intéressait à Bagnolet, on ne savait même pas.
Peut-être, qu'est-ce qui peut se faire, vous qui avez cette petite expérience? Il y en a d'autres qui partent en mission civile dans les territoires occupés en Palestine. Vous faites ça. Qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut rejoindre ce type d'initiatives qui ne sont que ces petites initiatives?
Là, il y a évidemment les petites initiatives dont on parlera. Enfin, je vous dirai. Moi, je retourne en Palestine. Je vais à Belaïn, dans un petit village qui est aujourd'hui en train de se faire ceinturer par le mur et qui prend plus de la moitié de ce village. À Belaïn, les gens se bagarrent d'une manière pacifique et totalement, non pas passive, hein, mais en s'attachant aux derniers oliviers qui restent, en s'enchaînant, en y allant avec des handicapés, avec des jeunes, enfin bon voilà. Donc l'Union juive pour la paix à laquelle j'appartiens, nous nous rendons donc du 16 au 26 février pour une mission pacifique et lancer des conférences de presse un peu partout.
On peut dire deux mots sur je vais poser ma question, tu réponds. L'UJFP, qui est une organisation en France qui regroupe des gens qui en tant que juifs demandent une paix juste au Proche-Orient.
Oui, une paix juste. Et justement, j'en arrive là sur les perspectives. C'est déjà que l'État d'Israël reconnaît l'épuration ethnique des territoires. C'est une chose. Une fois qu'il a reconnu ça, il reconnaît la souffrance d'un peuple, qui est le peuple donc palestinien, qui se retrouve un peu partout dans le monde, et notamment dans le monde arabe, où des conditions d'existence leur sont faites, qui sont ignobles. Et évidemment, une fois qu'ils ont reconnu ce droit au retour, il y a peut-être la possibilité de trouver des solutions, soit des solutions de réparation des gens qui veulent revenir en territoire israélien en acceptant la nationalité israélienne, d'autres sur les territoires palestiniens avec la nationalité palestinienne, et encore d'autres peut-être qui voudront rester dans le monde arabe. Mais pour ça, il faut faire en sorte que le monde arabe les accepte comme des citoyens à part entière. Voilà. Donc ça, c'est déjà une des premières solutions. Le reste, c'est que nous, militants, quel que soit l'endroit où on peut être, c'est aider ce pays ce peuple à se faire reconnaître en tant que pays, parce que c'est L'ONU a reconnu les Israéliens à leur droit, à leur identité, parce qu'ils étaient représentatifs, parce qu'ils avaient un pays, parce qu'ils avaient un groupe politique. Aujourd'hui, les Palestiniens ont fait la preuve aussi qu'ils étaient capables d'être une nation et un pays.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est une de leurs demandes aussi principales, pour être bref, c'est aussi qu'on apporte ce genre de témoignage, qu'on parle des réfugiés, qu'on parle du droit au retour. Ça c'est le principal, qu'on donne des bouffées d'air, tu vois, qu'il y ait des échanges. C'est ce qui s'est passé aussi sur Bagnolet. C'est une délégation de 80 personnes. Ça paraissait un peu délirant, c'était assez un peu impressionnant quoi, sur place, mais c'était pas mal le fait d'amener leurs anciens combattants, un vieux champion de lutte de 1954, une vieille patronne de bar, et puis des jeunes graffeurs, des associations de Bagnolet, des jeunes d'une cité aussi de Bagnolet. Bon, ça crée énormément d'échanges, ça crée du lien, ça crée un peu d'air, et voilà, ça c'est une des choses principales. Cette émission, ce qu'on peut faire, c'était cette émission aujourd'hui. Ouais.
Ben merci beaucoup d'être venu, Ouria, Gaël et Nathalie. Et voilà, merci d'être venu témoigner et d'avoir pris l'espace qu'on vous offrait pour parler de Chatila aujourd'hui.